mouvement. Bon, conclusion, peut-être que si des étudiants se sentent solidaires des Gazaouis, c'est notamment parce que quand ils voient des gens qu'on affame et qu'on force à vivre dans des lieux insalubres, ils s'identifient un tout petit peu.
Merci Charline Vanhoenacker. Bistroscopie samedi soir 19h15 avec Asma Mala, spécialiste de géopolitique de la technologie. Et un grand merci à l'équipe du 7-10, Perrine Malinge, Grégoire Nicolet, Caroline Prota, Mao de Butler, Anaïs Poncin, Jean Brossier, Juliette Drone et Victor Benigni. Réalisation Tiffany Battistel et Thomas Langlin. Rédaction en chef Stéphanie Boutonnat, Anne-Laure Sugier, Michael Thébault, Nasser Madji, assisté de Swad Bellani et de Stéphane Rousset. Programmation musicale Jean-Baptiste Audibert. Il est encore 9h. Les dernières infos, Anaïs Feugat.
Les transports d'Île-de-France seront-ils perturbés au lendemain du lundi de Pentecôte? Un préavis de grève a été déposé dans les transports SNCF de la région. RER, Transilien pour faire pression alors que se négocient les primes pour les Jeux Olympiques. Difficile de dire toutefois quelle sera l'ampleur du mouvement, Maxime Deps.
Selon ce tract de Sudrail, la SNCF, sa direction, se contenterait de distribuer des miettes aux agents pour les JO. Discussion toujours en cours et table ronde prévue le 22 mai prochain. C'est d'ailleurs pour ça que la date du 21 a été cochée pour cette grève francilienne, laquelle s'inscrit dans un contexte où la RATP a de son côté déjà en partie dévoilé son jeu. Les conducteurs de métro toucheront a priori, sous condition, une somme allant de 1600 à 2500 euros durant les Jeux. Alors pourquoi pas autant pour les conducteurs RER et Transilien de la SNCF. La SNCF, où la base était fixée au départ à 50 euros brut par jour de présence cet été, Sudrail demande le double en net. Repos compris. À la CGT, certains estiment qu'il faut aller au maximum vu les cadences, les flux de voyageurs attendus, quand d'autres seraient plutôt à freiner. Attention à la course à l'échalote, s'inquiète un syndicaliste. Gonfler l'enveloppe, c'est bien, mais ce n'est pas, je cite, du pognon en veux-tu en voilà sûr de moi qui réglera la question du train au quotidien. Il faudra aussi penser à l'après-JO.
Des grèves qui ne semblent pas perturber les investisseurs étrangers puisque pour la 5e année consécutive, la France est championne d'Europe de l'attractivité selon le baromètre du cabinet Ernst & Young. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, si les étrangers choisissent la France, c'est pour la qualité de sa main-d'œuvre et son environnement juridique et réglementaire. Il y a eu en France l'année dernière près de 1200 projets, beaucoup plus qu'au Royaume-Uni ou en Allemagne. En revanche, il s'agit aux deux tiers d'extensions de sites et non pas de projets qui partent de zéro, contrairement à ceux de nos voisins, avec par conséquent des créations d'emplois par projet moins nombreuses. La vague d'orage qui a balayé une partie du pays hier soir a fait un mort, une femme de 57 ans décédée dans une coulée de boue qui a touché sa maison juste à côté de Soissons. Son mari a été blessé et transporté à l'hôpital. La coulée de boue s'est accumulée dans ce secteur de Courmel et a envahi l'habitation. Événement météo intense et très localisé selon la préfecture de l'Aisne. Le département était placé par Météo France en vigilance orange hier. Comme 18 autres. Une quarantaine de vols ont d'ailleurs dû être déroutés dans la soirée des aéroports parisiens vers Lille, Lyon, Nantes ou encore Bruxelles. Et il est tombé localement en 2 heures en Île-de-France, l'équivalent de 2 semaines de pluie d'un mois de mai. Des grêlons de la taille d'une balle de golf aussi, ainsi qu'en Bourgogne. Lyon et la Côte d'Or également touchés. Les dégâts sont en cours d'évaluation dans les exploitations agricoles. Des agriculteurs qu'Emmanuel Macron reçoit dans 1 heure à l'Élysée. Le président de la République, Simon Le Baron, espère acter la fin de la crise de cet hiver.
Emmanuel Macron était sans doute un peu trop optimiste le 24 février au Salon, à l'issue d'un échange animé avec une délégation d'agriculteurs.
Donc moi je compte sur vous pour que tout le monde revienne au calme là. Moi, maintenant, vous savez que les ministres, la porte est ouverte. Et le rendez-vous dans 3 semaines, il est à la maison.
Il a finalement dû attendre plus de 2 mois avant de pouvoir revoir les représentants du monde agricole dans un climat apaisé. Les syndicats majoritaires, FNSEA et Jeunes Agriculteurs, estiment eux-mêmes, après les annonces gouvernementales du week-end dernier, qu'une nouvelle phase vient de s'ouvrir. La vérité, c'est qu'il n'y a plus grand-chose sur leur liste de courses, assure un conseiller du gouvernement. Autrement dit, toutes leurs revendications, ou presque, ont été satisfaites. Pour le président, la réunion du jour doit donc permettre de regarder vers l'avenir, de projeter le secteur majeur dans la résolution des défis des prochaines décennies, la souveraineté agricole à l'heure du dérèglement climatique. Je cite son entourage. L'Élysée estime donc que les conditions sont enfin réunies pour tourner une page.
Et l'ensemble du paquet de mesures représente, selon le ministre de l'Agriculture, entre 500 et 600 millions d'euros pour les finances publiques. La Russie a utilisé des armes chimiques en Ukraine. L'accusation est portée ce matin par les États-Unis. Ils affirment que l'armée russe a utilisé ce produit pour déloger les forces ukrainiennes de positions fortifiées afin de réaliser des avancées tactiques sur le champ de bataille en violation de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Et puis un stade Vélodrome à guichet fermé ce soir pour accueillir les Italiens de l'Atalanta Bergame, demi-finale allée de la Coupe Europa de football. Les Marseillais tenteront de faire mieux que les Parisiens hier soir en Ligue des Champions, battus 1-0 à Dortmund. Match retour mardi au Parc des Princes.
Merci Anaïs Feuga. Restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 10h.
France Inter, 20h10, Eva Bester.
Ce soir, émission spéciale en hommage à l'écrivain américain Paul Auster. Nous parlerons de son œuvre et de son héritage littéraire avec des gens qui l'ont étudié ou connu.
Grand Canal, tous les jours à 20h10 sur Inter.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, hein, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit.
APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
Il est 9h06. Et le 7-10 d'Inter continue, Léa, dans 20 minutes, une actrice et réalisatrice à votre micro.
Oui, elle raconte dans Dire Vrai, un récit autobiographique absolument bouleversant, une vie de violence depuis son enfance dans une famille dysfonctionnelle, à sa relation d'emprise avec le réalisateur Benoît Jacquot, en passant par ses relations tourmentées avec sa sœur Maïwenn. Isilde Lebesco est notre invitée à 9h20. Ne ratez pas son témoignage.
La page édito de ce jeudi, Média Mode et fringues, Cyril Lacarrière décryptera le relooking de Mark Zuckerberg, le patron de Meta. Culture, Christine Angot nous parlera de Monique Wittig et d'Edouard Louis.
Et puis elle est nommée pour le Molière du meilleur seul en scène et appartient à cette lignée de femmes qui ont fait des planches un lieu d'autofiction nécessaire entre réparation, rire et engagement. Eva Rami est la nouvelle tête de Mathilde Serret, ce sera à 9h50. Mais tout de suite, Nicolas, votre débat du 7-10.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10.
Débat ce matin, une semaine après le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne sur l'Europe de la défense. Le président de la République a défendu sa vision d'une Europe souveraine et puissante avant, deux jours plus tard, dans un entretien publié à la presse, dans la presse régionale, avant de relancer un débat plus polémique en évoquant la possibilité que la dissuasion nucléaire française contribue davantage à la défense du sol européen. Alors avec le retour de la guerre sur le continent européen, avec l'hypothèse d'un retour de Donald Trump à la Maison Blanche, comment penser ou repenser l'Europe de la défense? On va en parler ce matin avec Jean-Dominique Mercher, journaliste au quotidien L'Opinion, spécialiste des questions militaires, auteur de « Sommes-nous prêts pour la guerre ?»,« L'illusion de la puissance française », c'est chez Robert Laffont, et avec Bruno Tertrais, le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, auteur de « La guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires » aux éditions de l'Observatoire. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Et merci d'être dans ce studio. Juste un point de vocabulaire avant de commencer. On entend dans le débat les expressions Europe de la défense, défense de l'Europe, armée européenne. Rappelez-nous en quelques mots concis et bien choisis, Bruno Tertrais, la différence entre ces trois réalités.
Oui, c'est important. Alors, la défense de l'Europe, c'est quand on se défend contre une agression extérieure. Et ça, c'est pas pour l'Union européenne, c'est pour l'OTAN. On a décidé décidé collectivement que tant que les Américains étaient là, c'est l'OTAN qu'ils feraient. L'Europe de la défense, expression très française, totalement intraduisible en anglais d'ailleurs, c'est l'ensemble des activités de coopération ou les opérations que les Européens font entre eux, mais en dehors de la défense contre une menace de type russe. Ça peut être des opérations en Afrique, ça peut être des coopérations militaires diverses et variées, de la formation. Ça se fait soit à l'intérieur de l'Union, soit en dehors de l'Union européenne. Et puis, l'armée européenne, alors là, c'est le serpent de mer. Il faut tuer le serpent, parce que ça ne peut pas exister. Une armée, c'est un seul chef. Mmh. Et l'Europe, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas une fédération. Donc, il n'y a pas, et il n'y aura sans doute pas d'armée européenne.
Alors, une fois que ces points ont été précisés, entrons tout de suite dans le débat. Lors de son discours, Emmanuel Macron dit donc vouloir créer une Europe puissance qui se fait respecter, qui assure sa sécurité et qui reprend son autonomie stratégique. On voit l'idée, hein, quand on l'entend. Cette idée, Jean-Dominique Mercher, est-elle française ou est-elle partagée en Europe, ou bien les pays européens, comme le disait Bruno Tertré, préfèrent pour certains l'OTAN?
Alors, elle est très française, cette idée, mais c'est vrai qu'elle est... Il y a une prise de conscience d'un certain nombre de pays européens, en Allemagne notamment, de la nécessité d'en faire plus pour la défense depuis l'agression russe de l'Ukraine. Il y a beaucoup de... Chez les Français, il y a beaucoup d'espoir d'aller vers une forme de... ou d'ambition, plutôt, d'aller vers une forme d'autonomie stratégique de l'Europe, ce à quoi la plupart de nos alliés, quand même, de nos partenaires européens, ne sont pas enthousiastes à cette idée. Pour une raison simple, c'est que le cœur de leur défense, et c'est-à-dire, en fait, la dissuasion nucléaire... repose sur l'alliance avec les États-Unis, pour une raison que les Français ont du mal à comprendre. Il y a un traité qui s'appelle le traité de non-prolifération nucléaire, qui interdit à tous les pays européens, à l'exception de la France et de la Grande-Bretagne, de posséder l'arme nucléaire. Si l'on pense, comme les Français, comme l'Alliance Atlantique, que la dissuasion nucléaire reste le cœur de la défense, notamment face à une possible agression russe, ces pays sont obligés de s'en remettre à un protecteur, ce protecteur étant détenteur de l'arme nucléaire, étant les États-Unis. Donc, la défense de l'Europe, comme l'a rappelé Bruno, elle repose sur l'Alliance Atlantique. Et ça, ça ne changera pas. Après, on peut faire des choses...
Ça ne changera pas.
Ça ne changera pas. En tout cas, pas rapidement. Pas rapidement.
Dit Bruno Tertré.
Sauf s'il y avait une rupture totale des relations transatlantiques, avec un isolationnisme américain, avec le retour de Trump. Je pense qu'il y a beaucoup de déclarations, et que nous ne sommes pas à la veille d'un retrait américain de l'Europe.
Les Français ont toujours eu tort, et d'ailleurs, je le disais souvent, depuis 50 ans, en disant les Américains s'en vont, et pourtant, ils sont toujours là. Mais, quand même, le scénario d'une rupture du contrat de confiance, du contrat de sécurité transatlantique, aujourd'hui, il n'est plus du tout farfelu. C'est-à-dire que si Donald Trump, ou un autre président du même type, ça peut être autre chose que Trump, arrive et dit, désormais, je ne vous protège plus, les forces américaines, elles ont beau être en Europe, bah, vous savez, moi je dis souvent, il suffit d'un tweet pour casser l'OTAN. Ça repose sur un contrat de confiance, et ça repose aussi sur ce que l'adversaire voit. Autrement dit, si la Russie ou tout autre pays qui aurait des desseins sur l'Europe centrale et orientale, eh bien, estime que l'Amérique ne protégera plus l'Europe, eh bien, il n'y a pas besoin de retirer les troupes. Donc voilà, je pense que le scénario est quand même, à force d'avoir tort, les Français pourraient finir par avoir raison. Et puis par ailleurs, il y a aussi le fait que même si c'est Biden, même si c'est un président démocrate ou un républicain modéré, c'est vrai aussi qu'ils seront de toute façon appelés par l'Asie et par la Chine de plus en plus. Et donc, voilà, pour toutes ces raisons, on ne peut plus avoir autant confiance dans les États-Unis, et même les Allemands, même les Polonais commencent à le dire, que ce n'était le cas il y a encore 10 ans. Juste un mot, je suis d'accord avec Jean-Dominique, mais il n'y a pas que le nucléaire quand même. Il y a aussi le fait que dans l'imaginaire des Tchèques, des Polonais, etc., il y a cette idée selon laquelle les Français et les Britanniques, cette idée fausse, ce genre de mythe que connaît bien l'histoire, que les Français et les Britanniques, quand on a eu besoin d'eux dans la première moitié du XXe siècle, ils n'étaient pas là. Et cette idée, même si elle repose sur un récit historique contestable, elle est encore très prégnante à l'est du continent.
Encore une question. Cette Europe puissance, elle achète ses armes aux Américains ou elle construit les siennes pour construire par la même occasion son autonomie stratégique?
Alors ça, évidemment, c'est un des points durs de la relation de la France avec ses partenaires européens. Le président Macron, comme tous les présidents français, ont toujours souhaité que les Européens achètent Européens. Lorsque c'est possible, parce que parfois, on n'a pas sur le marché des choses en nombre suffisant ou assez rapidement. C'est pour ça, par exemple, que les Polonais sont allés acheter des chars aux Sud-Coréens. Il y a une autre dimension qui est là purement politique. Les Européens achètent Américains, notamment des avions de combat F-35, parce qu'ils considèrent que c'est une manière d'impliquer les Américains en Europe, de maintenir le lien transatlantique qui pour eux est essentiel, avec la peur, comme l'a très bien expliqué Bruno, que ce lien se distende, voire se rompe. Et donc le fait de dire nous sommes des clients importants et le fait d'avoir un système très intégré, parce que le fait d'acheter du matériel américain intègre la défense, par exemple, des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Italie, au système militaire et industriel américain, fait qu'ils ils ont l'impression, en tout cas, d'acheter une sécurité en achetant du matériel américain. C'est donc très difficile pour dire acheter des Rafales français plutôt que des F-35 américains.
Bruno Tertrais.
Tout ceci est parfaitement vrai. J'ajoute quand même que quand on voit le président de Dassault, et ils les ont fait plusieurs fois, les présidents de Dassault, dans les 30 dernières années, engueuler littéralement les pays européens qui achètent américains, c'est pas la meilleure manière d'avoir une réputation de bon vendeur. Juste un mot là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Dominique sur ce point, mais il y a des gens qui, aux États-Unis, vous disent, mais non, de toute façon, Trump, s'il est élu, ne va pas casser tout ça, parce qu'il sait très bien que ça bénéficie à l'industrie de défense américaine. À mon avis, c'est une erreur, parce que quand on sait la manière dont il fonctionne, c'est pas les gens qui sont proches de Trump qui disent ça, justement. Eh bien, on sait que lui, il s'en fiche. La seule chose qui l'intéresse, c'est lui-même. Et on le sait tous, on en a déjà parlé ici, je pense, que Trump 2 serait bien pire que Trump 1. Et pour toutes ces raisons, encore une fois, et c'est quelqu'un de plutôt attaché à la coopération transatlantique qui vous le dit, je pense qu'on a quand même des raisons d'être très préoccupés par ce scénario, qui peut être un Trump 2, ou peut-être un autre président américain du même type plus tard.
Qu'avez-vous pensé, Jean-Dominique Mercher, de l'hypothèse d'un bouclier antimissile européen?
Alors là, Emmanuel Macron a un peu bougé. Pas beaucoup, mais un peu. C'est-à-dire qu'il a dit peut-être, pourquoi pas. Alors que la position quand même de la France était plutôt hostile. Il faut bien comprendre que les Allemands, il y a maintenant près de 2 ans, ont lancé un grand projet de bouclier antimissile en Europe. Ils ont réussi à fédérer autour d'eux une vingtaine de pays et ça va se faire. Ils mettent de l'argent, ils achètent du matériel aux Américains, ils achètent du matériel, un bouclier aux Israéliens. On a vu quelle efficacité avait la défense antimissile et antiaérienne israélienne lorsque les Iraniens ont attaqué Israël. Donc, ils achètent du matériel pour se protéger. C'est un fait. Donc, la France est obligée de bouger un peu pour des raisons en partie industrielles, parce que nos industries, MBDA, Thales, sont dans ce domaine avec des niveaux de compétences très élevés. Donc là, il y a eu un petit bouger. Ça pose des problèmes doctrinaux, comme disent les spécialistes. Comment on articule une défense antimissile avec la dissuasion nucléaire? En gros, est-ce que la dissuasion nucléaire suffit à éviter que les Russes nous tirent des missiles dessus, ou faut-il aussi se doter des moyens d'arrêter les missiles une fois qu'ils seraient tirés?
Sur ce point-là, je crois qu'il y a un élément de contexte important. L'opinion européenne voit bien depuis 2 ans, et en particulier depuis 2 mois, que les missiles, ça peut pleuvoir littéralement avec les drones sur des pays proches, comme l'Ukraine, ou un peu plus loin lointain comme Israël. Et donc je pense que cette perception d'une menace aérienne et balistique, elle compte aussi dans l'évolution de la position publique, publique de la France. Mais sur le plan de l'articulation, dissuasion, défense, je pense pas que ce soit un vrai problème. Après tout, Israël a quand même eu une attaque de 300 missiles et drones, alors que c'est un état nucléaire. Personne n'a jamais pensé qu'il riposterait avec l'arme nucléaire. Et puis il faut quand même rappeler que il y a déjà 25 ans, Jacques Chirac disait que ça pouvait être complémentaire. Donc je crois que le problème est industriel est très important, Jean-Luc a bien fait de le rappeler. La France coopère d'ailleurs avec l'Italie sur ces sujets désormais, enfin depuis longtemps même, et je crois que ce problème est peut-être plus important que le problème conceptuel, entre guillemets.
Mais c'est pourtant une question conceptuelle que je voulais vous poser, mais d'une autre nature, entre l'Ukraine et l'hypothèse d'un retour de Trump à la Maison-Blanche. Est-ce que l'Europe, selon vous, va enfin accepter de se penser comme une puissance, ce qu'elle a refusé de faire jusque-là?
C'est difficile parce que la mutation est profonde, parce que l'Union européenne s'est construite justement dans l'idée qu'elle était un système de règlement pacifique des différends entre les pays européens. Donc passer de ce logiciel, de cet ADN de compromis, de paix, de coopération, à un logiciel d'exercice de la puissance brutale parfois, parce que parfois la puissance ça signifie d'aller tuer des gens en face, c'est vraiment compliqué. Donc je pense qu'effectivement il se passe des choses en Europe, notamment en Europe de l'Est. On sent bien que les Polonais sont les Baltes en Europe du Nord, les Finlandais, les Suédois sont dans une logique de réaffirmation. Est-ce que c'est vrai dans toute l'Europe? Est-ce que c'est vrai en Italie? Est-ce que c'est vrai en Espagne? Est-ce que c'est vrai en Allemagne? Moi, j'ai encore des interrogations. Mais oui, le curseur bouge dans ce sens-là. Jusqu'où bouge-t-il? On verra.
La révolution culturelle, de culture géopolitique, de culture stratégique européenne, elle est en train quand même de se faire l'idée de dire qu'on est dans un monde de rapport de force avec la Chine, la Russie, mais aussi quelque part avec les États-Unis. Bien sûr, ça, c'est des choses qui sont de plus en plus consensuelles à Bruxelles et dans la plupart, pas tous, mais dans la plupart des pays européens. Il reste que, quand même, on voit, quand on voit la manière dont le chancelier Scholz agit et pense, enfin en tout cas parle de la Russie, on a l'impression qu'en Allemagne notamment, on n'a pas totalement abandonné l'idée de dire ah bah oui, mais ça serait quand même tellement mieux si on faisait des compromis avec tout le monde et pourquoi pas avec la Russie si Trump revient au pouvoir. Donc je suis plutôt positif, plutôt optimiste, mais tout ça met du temps et tout ça, tout ça est encore fragile.
Merci à tous les deux.
Merci à vous.
D'avoir été à notre micro ce matin. Jean-Dominique Mercher, votre livre « Sommes-nous prêts pour la guerre ? L'illusion de la puissance française » chez Robert Laffont. Bruno Tertrais, le vôtre « La guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires » aux éditions de l'Observatoire. Merci encore. Merci. À suivre, l'invité de Léa Salamé, Isilde Lebesco, juste après Véronique Sanson sur Inter.
S'il te plaît. fais de toi le chemin de mon. Les jours de pluie, qu'est-ce que ça veut dire? Les jours de pluie, ça me fait bien rire. Et caresse-moi.
Baïa, Véronique Sanson, il est 9h23.
France Inter. Le 7-10.
Et Léa, ce matin, vous recevez une actrice, scénariste, réalisatrice.
Bonjour Isilde Lebesco.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin.
Merci.
Si vous étiez une héroïne de roman, un sentiment et un souvenir d'enfance, vous seriez qui, vous seriez quoi ?
Là, en ce moment, j'ai pas trop envie de parler de fiction. Je pense que je serais des héroïnes de roman et je suis Neige Simon, Adélaïde Lebon, Christine Angot, Camille Kouchner, Vanessa Springora, toutes ces femmes qui prennent la parole, qui ont la force. Et voilà.
Vous vous inscrivez dans la lignée de ces femmes-là, qui ne sont donc pas fictionnelles.
En tout cas, je les admire.
Si vous étiez un sentiment ?
L'amour.
Et un souvenir d'enfance ?
Les rires entre frères et sœurs qui surpassent tout.
Qui surpasse tout. Le psychanalyste Jacques Lacan disait « Je dis toujours la vérité, pas toute, parce que toute la dire, on n'y arrive pas, les mots y manquent. C'est même par cet impossible que la vérité tient au réel. » Qu'est-ce que cela vous inspire ? Dire la vérité toujours, mais toute la dire, c'est impossible ou pas ?
Oui, c'est sûr, et puis on la cherche. À travers l'écriture... je suis beaucoup revenue dessus parce que parfois c'est pas la première phrase qui dit vrai. Il faut chercher les mots qui résonnent juste.
Et quand on lit votre livre, je suis très heureuse de vous recevoir ce matin, pour ce livre-là, qui est votre premier livre, qui s'appelle « Dire vrai » chez De Noël, un récit autobiographique puissant, éprouvant, déchirant, toujours nuancé aussi, où vous retracez avec courage votre parcours de femme, mais on a l'impression que chaque mot de votre livre a été réfléchi, qu'il a été pesé, sous-pesé, repesé encore. Vous racontez une vie de violence et de souffrance depuis l'enfance, dans une famille dysfonctionnelle, c'est vous qui le dites, jusqu'à votre relation d'emprise avec le réalisateur Benoît Jacquot, en passant par des relations tourmentées avec votre sœur Maïwenn, aussi avec Luc Besson, Emmanuel Berco, Jacques Doyon. Vous écrivez « Je vais avoir 42 ans, j'ai envie d'être moi, d'accueillir la petite fille heurtée, l'adolescente manipulée, la jeune fille meurtrie ou la mère détruite. Mettre fin à ces cycles sombres. » Ce livre-là, c'est pour mettre fin à ces cycles sombres. Isilde Lebesco ?
Oui, je crois. J'ai écrit d'autres livres et j'ai toujours écrit sur les femmes et sur leur parcours court, souvent très difficile. Et là, il fallait. Je crois que je dise je, parce que c'est une ère où on a cette opportunité, ce boulevard d'être aujourd'hui entendu et enfin entendu dans tout ce qu'on surpasse tous et c'est un cadeau quand même, même si s'il est dur à porter, de pouvoir prendre cette parole pour nous toutes.
Votre livre s'ouvre par le récit d'une agression. Il y a quelques mois, en 2023, vous êtes dans un train et vous avez une altercation avec une femme manifestement instable. Elle vous frappe et vous enfonce son doigt dans votre œil violemment. Je suis pratiquement sans connaissance, je dissocie, écrivez-vous. Et quelques jours plus tard, ma petite sœur me dit que je l'ai appelée du train et j'ai juste répété en boucle « Je ne suis pas une victime, je ne suis pas une victime, je ne suis pas une victime ». Pourquoi cette phrase et pourquoi cette agression dans le train a été pour vous une prise de conscience ?
Cette agression dans le train où j'ai été fracassée pour aucune raison, je suis revenue et les gens me voyaient tout d'un coup comme une victime parce que j'avais le visage tuméfié, j'étais en arrêt de travail et j'avais aucune raison, aucune accroche pour me dire « Tiens, j'ai peut-être aussi été responsable de cet événement. » Même si je me suis quand même dit, en me disant « Bah tiens, j'aurais pu peut-être agir autrement alors qu'elle m'a défoncé la tête. » tout d'un coup, j'étais invitée à être victime. C'est-à-dire, les gens s'inquiétaient pour moi et ça m'a plongée dans cette sidération où j'ai pu relater toutes les fois où j'avais été victime dans ma vie et où je n'avais pas eu envie d'admettre que je l'étais. C'est difficile de dire qu'on est victime.
C'est difficile de le dire qu'on est victime. Il y a donc cet événement dans le train. Il y aura un autre déclencheur quelques semaines après. C'est les révélations de Judith Godrèche sur son histoire avec Benoît Jacquot, qui a porté plainte pour viol. À ce moment-là, la police vous appelle pour savoir si vous aussi vous voulez témoigner, puisque vous avez eu cette relation, et on va y venir avec Benoît Jacquot, de vos 16 à vos 24 ans. Il y a aussi des sollicitations dans les médias. On vous dit, Isilde Besco, est-ce que vous voulez parler? Vous déclinez les demandes d'interview et vous dites, ce rôle de victime que j'ai refusé si longtemps, je suis invitée maintenant à le tenir publiquement, médiatiquement. Vous dites non, et aujourd'hui il y a ce livre.
Parce que j'avais envie qu'il soit vrai, qu'il soit donc nuancé, et pas seulement prendre une chose qu'on a envie d'entendre, c'est-à-dire c'est tout un système, c'est toute une histoire, et on vit tout tellement ça que cette parole, il faut la dire juste.
La dire juste. Et vraiment, je trouve que c'est ça ce qui est très fort dans votre livre, c'est que vous voulez la dire juste. Vous voulez la dire juste et elle sonne juste quand on la lit. L'enfance décide, disait Sartre, et dans votre cas, c'est plus vrai que jamais. Vous écrivez, mon enfance a été marquée, mon enfance a marqué à jamais mon rapport au monde. Vous grandissez dans cette famille dysfonctionnelle avec des parents que vous jugez, je vous cite, autoritaires et violents au milieu de vos frères et sœurs, dont la plus célèbre est Maïwenn. C'est cette enfance livrée à vous-même où vous faisiez vous-même à manger avec vos frères et sœurs. Vous avez subi de la maltraitance, des coups. On était frappés et c'était normal, écrivez-vous. C'est cette violence-là qui vous a prédisposé à devenir plus tard un objet de violence, à devenir une proie. Vous dites, j'étais une proie. Ça vient de l'enfance.
Oui, ça vient de l'enfance, mais c'est pas que les coups, il y a tellement de femmes qui vivent la violence, qu'elle soit physique ou mentale. Quand elle est physique, elle est palpable, on la voit, et c'est un drapeau rouge et ça montre ce que ça fait au mental. Mais c'est pas que ça. Tellement de femmes vivent ça alors qu'elles n'ont pas forcément été tapées, mais parfois négligées.
Rabaissée,
humiliée, perpétuellement, même à l'école, même partout. Et une femme, elle enregistre ça et accepte tout naturellement ce continuum.
Et devient une proie, écrivez-vous. Il y a une figure importante dans cette famille qui s'occupe de vous, c'est votre grande sœur Maïwenn. Il y a un chapitre consacré à Maïwenn. Vous écrivez, elle avait mon admiration et mon dévouement absolu. Je me sentais tellement chanceuse de l'avoir comme grande sœur. Sauf que très vite, elle va partir vivre avec Luc Besson, qui va être la première figure masculine dans un premier temps rassurante pour vous, le premier à vous promettre une vie de famille normale, heureuse. Sauf que quelques temps plus tard, il quitte Maïwenn, qui vient d'accoucher. Et là, vous le vivez comme un abandon. C'est important pour vous cet épisode, c'est-à-dire de la petite sœur qui voit sa grande sœur abandonnée par l'homme qu'elle aimait.
Oui, parce que il y a les souffrances qu'on subit et puis il y a celles qu'on voit chez les autres et elles peuvent être tout aussi terribles. On le sait, les frères et sœurs, quand il y en a un qui est victime d'inceste, c'est tout aussi fracassant. Donc moi j'ai été témoin de ça et c'était terrible à la fois pour l'empathie que j'avais pour ma sœur et que j'ai, et à la fois pour cette promesse d'avenir qui est en fait terrible.
Ma plus grande crainte était d'être abandonnée, comme Luc, premier modèle masculin, avait abandonné ma sœur. Tout le long du livre, vous écrivez dans vos relations avec vos hommes, avec les hommes de vos vies, votre tétanie, c'est d'être quittée, d'être abandonnée. Ça revient en permanence.
Oui, et du coup, ça m'empêche de considérer la situation comme elle l'est vraiment et de faire un vrai choix, parce que je veux tellement pas être quittée que c'est ça qui m'importe, alors que...
Comme votre sœur est poussée par votre mère, vous commencez très tôt une carrière d'actrice. Dès le début, vous racontez, il y a des pages, les difficultés d'être une jeune actrice mineure. Vous avez 14 ans quand vous commencez dans le milieu du cinéma. Vous racontez qu'une réalisatrice, Brigitte Koskars, je la cite parce que vous citez les noms, exige que vous regardiez L'Empire des Sens, ce film érotique japonais, pour avoir un rôle. Vous avez 14 ans, vous devez regarder cela. Vous racontez aussi les tournages avec Emmanuel Berco, qui sort de la Fémis, qui vous fait jouer dans ses premiers films, dans ses courts-métrages, où vous devez jouer à 15 ans une longue série scènes de sexe où vous devez refaire une scène de baffe à plusieurs reprises. Vous écrivez « Les tournages avec Emmanuel étaient une aventure à la fois géniale et éprouvante, une expérience intime exposée aux yeux de tous. À force, la violence et l'humiliation courantes sur les plateaux me sont apparues banales. » Là encore, état de dissociation, la violence est banal, il faut l'accepter parce que c'est comme ça. C'est ça qui ressort.
Oui, et puis il y a aussi tellement la conscience d'une chance et de choses positives à la fois dans ce que on acquiert dans son métier, financièrement, dans des relations. C'est aussi tellement intense et tellement riche qu'en fait on nomme pas, on n'a pas aussi suffisamment de recul pour nommer les choses et même se défendre.
Et puis il y a aussi cette expérience avec Jacques Doyon qui vous promet de vous faire jouer dans un film. Vous commencez des séances de travail pendant plusieurs semaines, sauf qu'à un moment il se rapproche de vous. Il veut vous prendre la main, vous la retirez, un long moment de silence, il vous regarde et conclut « Tu ne vas pas faire le film, ma fille Lou va prendre ta place ».
Alors ce qui est terrible dans cette histoire...
Il a démenti, je précise aux Parisiens, il a démenti votre version.
Oui, mais ça, il suffirait en fait de parler aux acteurs du film carrément à l'ouest, avec qui j'ai travaillé des semaines et des semaines, que j'ai pas fait le film parce que j'ai refusé sa tentative d'intimité. C'est une chose et c'est très très banal. Ce qui est dégueulasse, c'est d'avoir travaillé des semaines et des semaines, et surtout d'avoir volé mes mots, volé mon essence pour faire ses films, comme il a fait probablement dans la plupart de ses films.
Et je précise que vous n'avez pas été payé pour ces,
jamais, bien sûr,
ces semaines de travail.
Et que lui s'enrichit sur le dos du cinéma français en les volant la substance des enfants et des jeunes filles.
Isilde Lebesco, il y a le cœur de votre livre, à savoir cette relation longue avec Benoît Jacquot. Je rappelle, vous avez 16 ans, il en a plus de 50 à l'époque. Il vous fait jouer dans son film Sad avec Daniel Auteuil. Vous dites comment Benoît Jacquot demande à la production de vous prendre une chambre dans le même hôtel que lui. Vous vous dites comment il repousse vos limites, comment il essaye de vous convaincre de tourner nu, de montrer toute votre intimité. Quand vous refusez, il va mettre des scènes de porno à votre place, sans vous demander. De mes 16 à mes 24 ans, Benoît m'a tenu par le pouvoir qu'il avait sur moi, par ce qu'il incarnait, autant que par la place qu'il occupait dans ma vie. Il était devenu un père, une mère, de plus que pour moi. Son regard me portait et m'annulait en même temps. Vous parlez d'une emprise destructrice, d'une perte de soi, de violence psychologique. Vous racontez aussi de violence physique, comment il vous gifle, comment il vous explique qu'il était anormal, que vous ne vouliez pas coucher avec lui. Prisonnière de mes manques matériels et affectifs, j'étais le terrain parfait pour toutes les maltraitances.
Benoît Jacquot, c'est simplement un homme de son époque. Je me sers de ça pour parler d'une époque et pour parler de comment un homme riche, plus vieux, qui a du pouvoir, se sert d'une adolescente pour en faire ce qu'il veut, et une adolescente pauvre. C'est très banal, en fait.
Oui, mais je garde de tout ce passé avec lui cette sensation de dérapage de tous les instants, un dysfonctionnement qui s'installait fondamentalement et des valeurs morales déviantes. Le chapitre consacré à Jacquot s'intitule « Turpitude, laideur morale, action honteuse, écrit ou parole ignoble ».
Oui, mais c'est simplement un homme de son époque. Ce qui est... Moi, je dénonce rien, tout ça... Les gens le savent, que ce soit dans le milieu du cinéma ou dans absolument tous les milieux, sauf qu'on n'entend pas la parole des femmes qui vivent dans ces situations. Mais au final, si elles ont l'opportunité de revisiter leur histoire, c'est uniquement ce qui peut en rester.
Est-ce qu'aujourd'hui on les entend plus, ces femmes ?
Oui, un petit peu plus, et on leur donne du courage, beaucoup, je crois, de parler, de nommer, de qualifier ce qui est dissonant, ce qu'il a été, et leur donner la force, oui, de pouvoir peut-être changer, même si c'est très difficile au début, c'est pour le meilleur.
Il y a des pages que vous écrivez sur le corps, sur la prise de pouvoir des autres, des puissants, sur votre corps, Isilde Lebesco, en permanence Benoît Jacquot, mais aussi d'autres. Lui, il surveillait ce que vous mangiez, il vous reprochait d'être trop grosse. Tu es belle, mais tu es trop grosse, tes cuisses sont comme de gros jambons, tu dois les affiner. La prise de pouvoir, la possession, passe aussi par ce corps qu'on vous demandait en permanence de maigrir.
Oui,
d'affiner.
Mais parce que comme j'étais actrice, c'était une porte d'entrée soi-disant bienveillante pour ma carrière de contrôle. Mais ça aussi, c'est très très banal. Un homme qui veut contrôler une femme, mais c'est partout.
Sur la question du viol, quand on vous demande ce mot, parce qu'il faut nommer les choses, est-ce qu'on nomme un viol? Est-ce que ce qui s'est passé avec Benoît Jacquot, c'était un viol? Vous répondez, dire que Benoît m'a violé, c'est évident, mais le mot viol est réducteur. On imagine dans le viol un acte physique, une fille qui se fait prendre de force alors qu'elle ne veut pas, alors qu'avant de me violer physiquement, Benoît a violé mon esprit.
Oui, bien sûr, c'est-à-dire... un viol physique, menace, surprise, contrainte, violence, c'est pas les viols qui se passent tous les jours. C'est-à-dire que la plupart des viols, que ce soit l'inceste ou les viols dans les familles, qui sont plus de 85% des cas, c'est un viol où la personne prend la confiance de l'autre et va rentrer comme ça.
Judith Godrèche, elle a porté plainte. Elle a fini par porter plainte contre Benoît Jacquot pour viol, avec violence sur mineur de moins de 15 ans. Vous, vous avez hésité, mais à l'heure où nous parlons ce matin, il vous reste 2 ans avant la prescription des faits, vous ne portez pas plainte.
Alors, moi, vis-à-vis de la justice, je suis, comme toutes les femmes, terrifiée et surtout retraumatisée par la justice. La justice... n'aide pas les femmes, donc oui, je peux me retraumatiser, mais pourquoi en fait? Et surtout aussi, la définition du viol en France exclut ma situation comme exclut la plupart des viols, c'est-à-dire surprise, menace, contrainte, violence. Il n'y a pas ça dans ma situation. Donc ça veut dire quoi en fait? Pourquoi je vais porter plainte? Ça ne sera pas qualifié et de toute façon, les hommes ne sont jamais condamnés.
Parfois, mais pas assez.
Jamais.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu Judith Godrèche, son discours au César?
Je trouve qu'elle a ouvert un boulevard et on doit moralement tous aller sur ce boulevard et bâtir, bétonner, construire. Et que ce soit... Les mots dire ne suffiront jamais, c'est certain, mais c'est déjà un début.
Elle conclut son discours en disant « Il faut se méfier des petites filles, elles se cognent, elles se blessent, mais elles rebondissent. »
Quand elles peuvent, oui, et on espère que ce sera toujours comme ça.
Et vous êtes cognée, vous vous êtes blessée, Isilde Bescot, et aujourd'hui, est-ce qu'avec ce livre, il y a une forme de réparation, de reconstruction, de rebondir?
Je ne sais pas si on se guérit vraiment. Je pourrais vous le dire dans quelques années, si j'arrive à vivre guérie, c'est-à-dire comme si j'avais une jambe cassée, est-ce que je pourrais recourir, remarcher, comme si je n'avais pas eu cette jambe cassée? Je ne sais pas encore.
Je mets des mots pour nos enfants, pour vos 2 fils. Ce livre, c'est aussi pour eux. Que vous avez écrit, qu'ils se sentent libres de toute emprise. Je suis grande, je ne peux plus ne pas me défendre.
Oui, oui, évidemment. Il faut dire, mettre des limites et s'exprimer.
Vos parents ont réagi dans le Monde en disant qu'ils vous soutenaient, malgré ce que vous écrivez, vos frères et sœurs aussi. Maïwenn, vous lui avez envoyé le livre?
Je crois, mon père a écrit La guérison de ma fille et ma guérison aussi. Et nos guérisons et la guérison d'une société et d'une histoire pour toutes.
Et vous espérez qu'elle le lira, Maïwenn, avec qui
Ça sera son choix.
C'est un récit bouleversant, précis, nuancé sur l'emprise et la prédation. Ça s'appelle « Dire vrai ». C'est sorti hier chez De Noël. Merci beaucoup, Isilde Bescot, d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci.
Et tout de suite, Taylor Swift. You can be the heat if you beat the charges too. They said I was a cheat, I guess it must be true. And my friends all smell like weed or little babies. And the city reeks of driving myself crazy. Little did you know your home's really only a town you're just a guest in. So you work your life away just to pay for a timeshare down in Destin, Florida. Hurricane with my name when it came. I got drunk and I dared it to wash me away. Barricaded in the bathroom with a bottle on. Well, me and my ghost, we had a hell of a time. Yes, I'm haunted, but I'm feeling.
disappeared. Well, no one asks any questions here.
So I did my best to lay to rest all of the bodies that have ever been on my body, and in my mind they sink into the swamp. Is that a bad thing to say in a song? Little did you know you're 100. Only the time you'll get arrested. So you pack your life away just to wait out the firestorm back in Texas. For it all. Forget, so take me to Florida.
I've got some regrets, I'll bury them in Florida.
Tell me I'm despicable, say it's unforgivable.
At least the dolls are beautiful. We are Florida.
I need to forget, so take me to Florida.
I've got some regrets, I'll bury them in Florida.
Tell me I'm despicable, say it's unforgivable. What a crash.
Taylor Swift en concert à Paris la semaine prochaine. 4 soirs d'affilée. Il est 9h44.
France Inter. Le 7-10.
L'édito média Cyril Lacarrière, ou l'édito mode plutôt,
oui,
ce matin. Le nouveau look pour une, un nouveau look pour une nouvelle vie.
Ouais, terminer les médias trop chiants comme la vie sans alcool, hein, Léa.
Oh non.
Ce matin, je
on
vous
arrête avec les vannes.
Ah bon? Oh bon, d'accord. Ce matin, je vous parle de la tenue de Mark Zuckerberg. Alors normalement, vous me dites que les fringues du patron de Facebook n'ont jamais eu aucun intérêt, et c'est vrai. Depuis qu'on le connaît, Zuckerberg s'est toujours montré avec un jean foncé, un t-shirt gris. C'est son costume, comme le 501, le pull noir col montant de Steve Jobs. Pour ces génies de la tech, choisir ses affaires, c'est une perte de temps. Zuckerberg le dit lui-même.
J'ai l'impression de ne pas faire mon travail si je consacre mon énergie à des choses stupides ou frivoles.
Mais ça, Nicolas, ça, c'était avant. Comme vous, d'ailleurs.
Regardez comment je suis habillé.
Et alors, ce qui a changé, c'est l'apparition de t-shirts de couleur. Une longue veste en peau de mouton, on l'a même vu à une fête de mariage en Inde avec sa femme, tous les deux habillés en Alexander McQueen, $22,000 de sable sur le dos. Car oui, l'opération relooking concerne aussi Madame Zuckerberg. Et puis il se laisse pousser les cheveux, on voit ses bouclettes, il porte même de longues chaînes autour du cou. Preuve que tout ça ne passe pas inaperçu. Une photo de lui retouchée a fait le tour des internets, on lui a rajouté une barbe de 3 jours, et franchement, beau gosse Marc, hein, au point que l'actrice Gwyneth Paltrow s'est fendue d'un commentaire.
Il ressemble à mon ex-mari sur cette photo.
Zuckerberg, des airs de Chris Martin, le chanteur de Coldplay. Oui, c'est la révolution.
Bon, tant mieux pour lui, mais qu'est-ce que ça nous raconte ce matin? C'est passionnant. Hein,
oui, vous allez voir, vous allez voir.
Jusque-là, ouais, c'était génial.
C'est pas juste la crise de la quarantaine, il les aura le 14 mai. Si Zuckerberg décide de faire attention à sa garde-robe, c'est parce que depuis quelques temps, il opère un changement plus large. Un changement qui concerne l'image aussi, mais celle de son groupe Meta, c'est-à-dire Facebook, Instagram et WhatsApp. Depuis 18 mois, Zuckerberg se fait rare, moins de prises de parole, moins de grands discours péremptoires sur l'avenir. Je vous avais aussi raconté sa séquence excuse récemment au Sénat américain. Bref, Zuckerberg cherche à échapper au personnage d'impitoyable prédateur qu'il se traîne depuis plus de 20 ans et ça passe aussi, oui, par son apparence.
D'autant qu'il y a maintenant pire que lui.
Eh oui, depuis l'arrivée d'Elon Musk à la tête de X, le grand méchant des réseaux sociaux, ce n'est plus Zuckerberg, c'est l'autre, donc il en profite. Cette image de mec cool, Zuckerberg ne l'entretient pas qu'avec sa nouvelle coupe de cheveux, mais aussi avec le positionnement de son nouveau réseau Threads, le rival de X lancé l'été dernier. Chez nous, c'est beaucoup moins populaire encore que l'ex-Twitter. Aux États-Unis, pourtant, Threads vient de dépasser son concurrent. Évidemment, je ne suis pas naïf, le nouveau look de Zuckerberg n'efface pas tout ce qu'il y a à lui reprocher. Il continue de se gaver de nos données personnelles et de piétiner le concept même de vie privée. Mais quand même, il y a une morale, un bon styliste, ça peut vous changer la vie.
Et faire une chronique. Merci. Exactement. Cyril Lacarrière. Il est à 9h47, l'heure de vous écouter, Christine Angot.
Monique Wittig était une écrivaine française qui a quitté la France quand elle a compris que le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes dont elle faisait partie, n'envisageait cette libération qu'en référence aux hommes, qu'être femme impliquait être hétérosexuelle et que la lutte de libération portait en elle-même la soumission. Elle décrit l'hétérosexualité comme une injonction liée à la natalité. On ne la comprend pas, Elle part pour les États-Unis avec un sentiment d'échec, d'exclusion et de tristesse. Mais elle écrit. Et elle parle. Beauvoir avait dit « on n'est pas femme, on le devient ». Elle en rajoute. Elle dit « les lesbiennes ne sont pas des femmes ». Et « je me souviens que j'ai pris une décision consciente à l'âge de 12 ans. J'échapperai à la dépendance des femmes. Je n'aurai pas une vie de femme qui sert un homme, qui n'a pas de vie à elle ». Aujourd'hui, on l'étudie dans les universités. Une thèse lui a été consacrée il y a quelques années. Et son écriture est au centre du débat qui nous occupe depuis 2000 ans. En 1992, elle écrit dans La pensée straite. Straight, ça veut dire hétéro, mais aussi droite, rapide, rigide, raide, rigide. Elle écrit à la première phrase « L'hétérosexualité est le régime politique sous lequel nous vivons, fondé sur l'esclavagisation des femmes. » Elle nous met dans un autre problème, bien plus vaste que la vaisselle et la charge mentale, et pourtant, elle poursuit « Dans une situation désespérée comparable à celle des serfs et des esclaves, les femmes ont le choix d'être des fugitives, d'essayer d'échapper à leur classe, comme font les lesbiennes, et ou de renégocier quotidiennement, terme à terme, le contrat social. Qui ne se reconnaît pas là-dedans ? La négociation pied à pied. Comme l'esclavage qui n'était pas seulement l'affaire du maître et de l'esclave, mais un système de production, si l'hétérosexualité est un régime politique, on ne peut que négocier de l'intérieur ou s'évader. Comme pour l'inceste, pour parler de quelque chose que je connais bien, qu'on l'ait vécu ou pas, il s'exerce à l'intérieur d'un régime de soumission au personnage puissant de la famille, reconnu comme tel par l'ensemble de la société. Elle écrit « La seule chose à faire est donc de se considérer comme une fugitive, une esclave en fuite, une lesbienne. » Et ajoute « Il n'y a pas d'autre moyen de s'évader. » L'actualité littéraire s'occupe actuellement d'une autre évasion et d'une autre Monique, la mère d'Édouard Louis, dans Monique s'évade. Après avoir essayé de négocier, elle s'évade de la situation dans laquelle elle vit depuis toujours, avec l'aide de son fils écrivain qui est à l'étranger. Première phrase du livre, elle m'a appelée au milieu de la soirée, elle pleurait. La honte sociale, qui est au cœur des livres d'Édouard Louis depuis En finir avec Eddie Bellegueule, là, il est remplacé par la fierté d'aider sa mère à partir, à quitter l'homme avec qui elle vit, ou habite. Il tient à la nuance. Il décrit l'évasion concrètement, stratégie, argent, meubles qu'on emporte, qu'on laisse, annonce immobilière, bouche à oreille, les moyens de l'écrivain qui ne sont pas ceux de sa mère. Il n'est pas question d'inconscient ni de choses qui échappent à la pensée. On est dans la sociologie appliquée à la littérature. D'une certaine façon, Monique s'évade est une sorte de travaux pratiques de la pensée straite. Page 40, presque au milieu du livre. Tu ne vas pas retourner chez cet homme, tu me le promets. Ah ça non, j'ai ma liberté, je la garde, je te le promets.
Merci Christine Angot. Et à 9h51, place aux nouvelles têtes. Mathilde Serrel, ce matin, une comédienne d'utilité publique. Eva Rami est dans notre studio, portrait sonore.
Enfant, elle a habité à l'école. Dans un village de l'arrière-pays niçois, son père est directeur et elle, cette très bonne élève, qui se rêve secrètement comédienne. Entre deux imitations prometteuses, délicat coup.
Fortuné, tu vas en boîte. Qui c'est qui vient te chercher? Un type? Ah bon, ben ça me regarde pas. Mais écoute-moi bien, Fortuné. Le type, il va vouloir te toucher la poitrine. Oui, ma fille, oui, il va vouloir te toucher la poitrine. Eh ben, tu dis oui.
Et oui, Madame Sarfati, ce sera son premier choc théâtral, sa première flamme pour le métier. Elle passe d'abord par la fac de droit pour ne fâcher personne. Puis entre au conservatoire de Nice, intègre à Paris l'école supérieure d'art dramatique et le conservatoire national. Elle veut maintenant écrire son spectacle, ou plus précisément son autofiction sur scène, qu'elle imagine poétique et tragique, comme une chanson brésilienne.
Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai.
Avec son avatar, Elsa ravit. Ce double qui lui permet de rire de ses blessures, elle va même construire une trilogie. Elle est successivement tous les personnages qui ont jalonné sa vie dans des caricatures hilarantes jusqu'au troisième volet qui met 10 ans à sortir et se rapproche de son plus grand silence.
À ce moment-là, j'ai su et je me suis dit, des liens se tissent, mais je ne peux pas, je suis bien. Ma famille ne comprendra pas, je vais les décevoir, je vais les perdre, c'est sûr. Si je pars,
Va aimer, c'est l'histoire d'une jeune femme qui veut et va comprendre ce qui la paralyse dans son envol. C'est aussi un cœur de mère, de grand-mère, d'amis, et ça a l'insolence d'être drôle. Eva Rami, bonjour et bravo.
Bonjour et merci pour ce magnifique portrait.
Vous écoutiez attentivement Isilde Lebesco à l'instant, qui était l'invitée de Léa Salamé, son livre « Dire vrai », la nécessité qu'elle a eue de l'écrire. Comment est-ce que ça résonne en vous, la question notamment de la justice qu'elle évoquait à la fin de cette interview, puisque vous, vous mettez en scène le faux procès de votre viol, le faux procès de votre inceste, sachant qu'il ne sera peut-être pas jamais élucidé, jamais mené.
Eh bien, je buvais ces paroles, j'en suis encore tout imprégnée, et même encore un peu tremblante, je l'ai croisée là dans les couloirs, je suis à la fois tellement... C'est un choc de toutes ces femmes qu'on entend. En même temps, il y a quelque chose aussi de joyeux parce qu'on laisse cette place-là. Et évidemment que je me reconnais dans tout ce qu'elle a dit. De toute façon, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de... qui fait à la fois du bien, à la fois c'est atterrant. Et en même temps, je me reconnais tellement dans ces mots. Que dire de plus? Ils font écho en moi terriblement. Et de mon côté, c'est pareil. Je sais que je n'ai pas porté plainte à ce jour encore. Parce que déjà, je me rends justice par moi-même, sans attendre que la justice elle-même le fasse, par peur. De me prendre une seconde claquasse dans la tronche. Et en fait, pour l'instant, c'est ce spectacle-là, Va aimer, qui me rend, avec lequel je me rends justice.
Ouais. 18 personnes sur scène. Vous incarnez 18 personnes pour porter cette écriture à plusieurs voix donc et plusieurs corps. C'était nécessaire pour aborder ce que vous appelez dans le spectacle cette tâche.
Ah ouais, puis ça, c'est vrai que c'est un exercice que j'adore. Moi, je viens du clown et du masque, donc vraiment changer de corps, changer de voix, changer de genre, c'est quelque chose... que j'adore et qui permet justement d'incarner des mots, d'incarner des thématiques, on va dire, plus profondes.
Et ouais. Il y a aussi une sorte de génération de connivence avec ces seuls en scène auto-fictifs. Andréa Bescon, Julie Duval, qu'on a reçu ici, il y a une sorte de révélation des traumas, mais qui se fait entourer par cette forme, cette écriture, ce rire aussi. Il joue quel rôle, ces personnages, ces mises en place pour accoucher d'une parole?
Ces personnages, ils accompagnent notamment, en fait, Vol, il y avait vraiment... C'est toujours, de toute façon, des histoires de transmission.
Vol, c'est le premier spectacle.
C'est le premier seul en scène, ouais, en effet, que j'ai écrit il y a 10 ans. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, même Va aimer, en fait, c'est finalement... C'est pas vraiment une continuité, c'est comme si c'était une autre facette du personnage principal, comme si c'était une autre histoire, qu'on avait accès à un autre intime de ce qui se passait en parallèle de ces deux premiers volets.
Et vous, ça vous est venu en écrivant ?
Ah, c'est venu par rapport, vous voulez dire
à la révélation de ce qui a pu vous arriver.
Ah, bah, c'est venu
dans l'enfance. Il y a une révélation dans le spectacle, mais on pense aussi à une révélation peut-être dans l'écriture.
Bien sûr, mais je pense que l'écriture le savait même avant moi. C'est-à-dire que c'est ça la puissance des mots et en effet de l'inconscient. C'est-à-dire que même dans les deux premiers, je n'avais pas encore fait un chemin thérapeutique, je n'avais pas encore, je pense, conscientisé. Mais malgré tout, il y a des clés. Il y a des petites clés.
Il y a des indices, des cailloux.
Oui, et j'ai repris le spectacle, j'ai repris les trois d'affilée il n'y a pas longtemps au Théâtre National de Nice. J'ai enchaîné les trois, Vol, tais-toi et Va aimer. Et je me suis dit, waouh, c'est taré comment l'inconscient, déjà, il envoyait des petites clés déjà dans les deux premiers volets.
Il faut dire que c'est aussi extrêmement drôle, je le disais, ça a l'insolence d'être drôle. Il y a Luna, la copine brésilienne, et son accent guaya coupé au couteau. Il y a Miette, l'autre copine qui parle un peu comme ça. Il y a la mère rock à l'intérieur, mais qui s'est laissée enfermer. Il y a les potes d'adolescence qui se la jouent virile en regardant du porno avec des voix quand même pas muées. Il y a le thérapeute perché qui prononce tous les Z. Et puis votre grand-mère à la canne qui a un rôle comique, qui pourtant cherche aussi cette petite fille qui se cache partout pour échapper à son grand-père. C'est extrêmement émouvant aussi pour ces personnages. Vous êtes nommé au Molière pour ce seul en scène, notamment aux côtés de Ludivine Sagnier qui incarne le consentement, de Vanessa Springora sur scène.
Ouais.
Comment vous vous sentez ces lundis ?
Franchement, je me sens bien, je suis tellement heureuse, c'est une reconnaissance, c'est la petite tape dans le dos là qui fait du bien, qui dit t'es sur le bon chemin, donc en fait je me sens reconnaissante, je me sens à ma place, je me sens au bon endroit, voilà, donc ça fait du bien, bordel.
Il vous manque plus qu'un truc avec, enfin...
un petit truc avec...
Non, il vous manque peut-être la suite, en tout cas, on verra.
Oui, ce serait la petite cerise sur le gâteau, mais pour moi c'est bon, c'est déjà... C'est déjà beau.
C'est déjà beau. Va aimer. Ce sera également en Avignon cet été. Et puis reprise au Théâtre de la Pépinière à Paris. On vous retrouve aux côtés de Sabine Azéma et André Dusselier au cinéma dans N'avoue Jamais. Un grand merci à toute l'équipe de Nouvelle Tête. Lucie Lemarchand, la réalisation. Marion Philippe, à la préparation. Bonne route à vous. Eva Rami, et bravo.
Et merci Mathilde. Ali Rebéi, bonjour.
Vous avez eu envie de changer de métier, Nicolas? Bon, bah, en tout cas, ce matin, on va vous aider.
Présentez grand bien vos passes.
avec plaisir. Ce matin, comment réussir sa reconversion professionnelle? Nous allons vous aider à faire le point, à préparer le terrain, à bâtir votre projet, à trouver l'énergie et l'envie de franchir ce cap. 01 45 24 7000.
Allez, à tout de suite, les infos à suivre.
En ce moment, plus que jamais, la recherche est essentielle. Gustave Roussy, classé premier centre européen de lutte contre le cancer, a besoin de vous. Saviez-vous que vos impôts peuvent aider à guérir le cancer de l'adulte et de l'enfant au XXIe siècle? Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu,